Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
À la une du Journal de Montréal et du Journal de Québec ce matin, voici les meilleures écoles du Québec. Et la bonne nouvelle, cette année, trois écoles publiques qui se retrouvent vraiment dans le haut du palmarès avec une note parfaite de 10. Comment analyser tous ces chiffres-là? Comment lire entre les lignes? On va le faire avec Égide Royer, psychologue. Merci, bonjour Monsieur Royer, comment allez-vous?
Ça va très bien, vous?
Oui, ben ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, Égide, alors je suis contente de vous retrouver. Écoutez, ce palmarès des écoles nous permet d'avoir un instantané de la situation en 2019. Hein. C'est important de spécifier que c'est les chiffres avant la pandémie. Cette information-là que je viens de mentionner, le fait qu'il y a trois écoles publiques qui vraiment ont une note parfaite, c'est une bonne nouvelle quand même.
Oui, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où ce sont des écoles qui offrent le programme international. Donc, c'est des écoles qui recrutent évidemment des élèves en mesure de le faire.
Mm-hmm. C'est un peu toujours Ils sélectionnent, c'est ça.
C'est toujours la même chose. À clientèle égale, là, avec un échantillon de jeunes qui ont sensiblement les mêmes caractéristiques, là, fort, moyen, faible. Quand vous voyez des différences, s'ils accueillent sensiblement les mêmes jeunes, mais là, c'est vraiment la qualité de l'école. Mais d'un autre côté, écoutez, présentement, là, il y a 15 points de pourcentage de différence entre la réussite au privé et au public. On peut dire que ça dépend uniquement de la qualité des écoles privées, mais on peut dire aussi que ça probablement davantage, ça dépend aussi des clientèles qui acceptent, des jeunes qui acceptent. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est des écoles publiques qui, de toute évidence, alors dans le cadre du programme international, là, font très bien, puis là je rappelle la mesure, hein, font très bien aux tests de 4e et 5e secondaire du ministère. Mais combien de milliers de jeunes ne se rendent même pas en 4e et 5e secondaire? Et ceux-là ne rentrent pas dans le palmarès.
Non, c'est sûr, c'est une évidence. Ce phénomène-là de décrochage scolaire vous inquiète au plus haut point, Égide Royer. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça ne va pas aller en s'améliorant.
Non, c'est évident que présentement, là, je suis de ceux là, qui recommandent au ministre d'avoir pas simplement des chiffres, ministre d'Éducation, pas simplement des chiffres sur combien de jeunes ont attrapé la COVID, là, mais combien de jeunes ne sont pas revenus et combien de jeunes ont quitté à la fin d'octobre, combien de jeunes auront quitté. Et par rapport au palmarès, regardez ce qui est extrait. D'ailleurs, j'en fais une recommandation, ça fait déjà
quelques années
que je le fais. La recommandation, c'est que c'est toujours les tests de 4e, 5e secondaire, mais on peut comparer une école avec elle-même d'une année à l'autre, ça c'est correct. Mais l'autre élément, combien de jeunes ont obtenu leur diplôme sur ça, je sais pas, sur 1000 jeunes qui rentrent en première secondaire dans cette école-là, 5 ans ou 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, combien ont obtenu un diplôme? On appelle le taux de diplomation. L'autre élément, combien de jeunes qui étaient en difficulté, on a décidé de les envoyer à l'éducation des adultes? Donc, vous avez plusieurs dizaines de milliers de jeunes présentement qui ont entre 16 et 19 ans qui sont à l'éducation des adultes. Eux autres sont sous le radar complètement.
C'est vrai, c'est très important, il faut pas les oublier. Allez-y, oui.
Et l'autre élément, c'est que vous venez de souligner, c'est décrocheurs. Écoutez, moi, 75% des décrocheurs ont entre 14 et 17 ans. Donc, ils seront pas assis en train de faire l'examen de 4e, 5e non. secondaire du ministère. Donc, ça, il faudrait qu'ils aient dans leur indice composite, là, dans leur palmarès, ils tiennent compte de ces variables-là, des jeunes qui sont carrément pas là, parce qu'ils sont aux adultes, ou ils ont décroché, ou ils sont en train de tripler leur 3e secondaire. C'est souvent ces jeunes-là dont il faut se préoccuper aussi. Mais quand on compare une école avec elle-même, une année à l'autre, là, c'est évident que c'est pertinent.
Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution de certaines écoles qui sont parties il y a 5 ans, qui étaient vraiment dans les tréfonds du palmarès, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment des cancres, hein, et qui se sont améliorés. Et ça, c'est important de souligner et d'applaudir ces résultats-là, parce que on le dit des fois, hein, c'est pas tellement la destination qui est importante, c'est le chemin, c'est le voyage. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt que se désoler sur son sort en disant, oh, mon Dieu, on est pourri, on est vraiment dans le fin fond du palmarès. Oui, mais il y a des choses que tu peux faire pour t'améliorer puis te rendre dans le peloton de tête.
Oui, c'est ça. Puis en plus, ça, vous avez tout à fait raison, vous soulignez les histoires à succès ou les progrès de l'école. Et si en plus d'avoir augmenté leur moyenne au test de secondaire 4, secondaire 5, leur taux de décrochage a diminué, Mm-hmm. Ils ont gardé avec eux les élèves jusqu'à 18 ans au lieu de les envoyer à l'éducation des adultes à 16-17 ans quand ils sont en difficulté. Et leur taux de diplomation augmente, ben là, c'est évident que là, vous avez c'est trois autres indicateurs, trois autres lumières vertes là, qu'on peut se mettre à qui peuvent scintiller en indiquant justement que la situation s'améliore, là.
On peut crier bingo à ce moment-là. Crier bingo, un bingo scolaire, là, pas un vrai bingo, parce qu'on sait que c'est pas une bonne idée d'y aller. Je veux absolument parler d'un sujet, Égide, mm-hmm. parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, parce qu'on en a parlé, vous et moi, maintes et maintes fois. La différence, l'écart entre les garçons et les filles en mathématiques, c'est une catastrophe. Comment se fait-il que la société se mobilise pas plus que ça? Si c'était l'inverse, là, on va se le dire, hein? Si c'était les filles qui étaient moins bonnes que les garçons, qui avaient un taux de décrochage extrêmement élevé chez les filles, ben la société crierait, puis c'est vraiment tout le monde serait grimpé dans les rideaux. Comment se fait-il que ce soit, même je regarde dans mon journal, là, c'est un petit paragraphe, ça devrait faire la une des journaux, cet écart-là.
Vous avez raison, c'était l'inverse. Écoutez, moi, on n'est pas nombreux d'ailleurs à aborder cette question-là, on me traite souvent.
Les gens ont peur.
Masculiniste, celle-là, je l'avais pas vu venir. En tout cas, regardez. Je vais donner bientôt, la semaine prochaine, une conférence autant aux gens du municipal, du scolaire, du communautaire, toute la grande région de Montérégie-Ouest.
Okay.
Et je vais vous donner l'écart en points de pourcentage entre le taux de diplomation des garçons et des filles. Ça, c'est l'écart que je vous donne.
Oui.
Par commission scolaire, je ne nommerai pas les commissions scolaires, mais je vais vous donner les chiffres. Moins 13 % moins 18 % moins 21 % moins 19 % Ça, c'est l'écart en pourcentage en s'il fallait qu'on dise qu'au Québec, par exemple, les filles, il y a un écart de 15-20% au niveau du taux de diplomation des filles comparativement au taux de diplomation des garçons, que ce soit les filles qui soient plus faibles, écoutez, ça serait totalement insoutenable.
Mais non.
Et c'est pourtant une réalité, ça, qui dure et qui dure et qui dure. Et je vais faire comme d'habitude un certain nombre de recommandations là-dessus. Et une des recommandations, c'est que mes garçons sont plus susceptibles de prendre des retards en lecture très, très tôt, là, au début du primaire.
Ah oui.
Et l'autre élément, c'est que j'ai besoin, et là, on me conteste là-dessus, mais envers et contre tous, je continue. Si vous voulez augmenter, je vous donne un exemple, si vous voulez augmenter le nombre de femmes membres de conseils d'administration qui président des conseils d'administration, souvent, il y a des regroupements de femmes qui font déjà ce type de travail-là, qui vont servir de modèle.
Oui.
Et bon, ça, tout le monde est d'accord avec ça. Je suppose que l'ancien président du mouvement Desjardins en disant, écoutez, moi, souvent, j'interviens auprès de jeunes femmes en début de carrière, de jeunes gestionnaires pour leur montrer que les femmes, on est capable d'eux. Mais quand j'arrive pour dire, on a besoin de modèles masculins de réussite, là, ça passe pas.
Êtes-vous sérieux? Ça me tue, Gilles, quand je vous entends dire ça.
C'est fascinant, parce que si je dis qu'on a besoin de modèles masculins de réussite pour les garçons, entre autres, ça peut être au début du primaire, mais au début du secondaire, on me dit, écoutez, encore, c'est une forme de désapprobation, tu te trouves à critiquer les femmes qui sont en éducation. Voyez-vous comment est-ce que ça glisse?
On parle d'une question,
on va glisser sur l'autre. Et l'autre élément qui est fascinant, puis pour compléter cet aspect-là, un autre élément qui est fascinant, c'est quand on dit que les taux de décrochage des garçons sont nettement plus élevés, écoutez, c'est majeur, plus que les filles. Et c'est la même chose au niveau des taux de diplomation qui sont nettement inférieurs. On me répond, mais c'est pas grave, parce que même sans diplôme, à 24 ans, les gars gagnent mieux leur vie que les filles. Voyez-vous, c'est
voyons, on minimise la gravité de la situation, puis on banalise le décrochage scolaire.
Oui, c'est qu'on pose une question. On pose une question, puis on répond à une autre question. Qu'est-ce qui se passe avant 24 ans? J'ai publié un bouquin là-dessus déjà depuis une dizaine d'années déjà, Leçon d'éléphant pour la réussite des garçons à l'école. Et bien, j'ai donné une communication, moi, à l'UNESCO à Paris là-dessus, et ça brassait. Pourtant, il y a des avis très clairs de l'Union européenne par rapport à cette question-là. Il y a une sous-scolarisation des garçons au Québec. Et c'est essentiellement une sous-scolarisation des garçons francophones au Québec.
Même
au niveau des anglophones. Et quand je vais donner ça à Montérégie la semaine prochaine, la conférence là, l'ensemble des intervenants, je parle d'une sous-scolarisation des garçons dans la grande région de Montérégie-Ouest. Et c'est une évidence. Là. C'est même pas une étude. Je vous donne les chiffres comptés tête d'élève par tête d'élève. Là.
Oui, mais vous nous avez donné moins 13, moins 18, moins 21, moins 19 %. J'ai noté tout ça.
Chiffre provincial, au niveau des diplomations, je l'ai devant moi aussi parce que j'ai la conférence devant moi.
Ouais.
On se retrouve environ taux de diplomation des garçons après 7 ans. Et qu'au réseau public, c'est environ 68 %. Taux de diplomation des filles après 7 ans, c'est 80 %.
Donc, c'est ça, une différence de 22. Ah oui, de 12, pardon, 68.
68,
12 80, c'est vous qui avez raison.
Donc, une différence de 12 points de pourcentage, c'est énorme.
Mais c'est énorme, et la raison pour laquelle on en parle autant, vous et moi, et Gide, c'est que c'est juste une question d'équité, c'est-à-dire que peu importe le sexe, peu importe le genre, quand on pense qu'il y a une partie d'un segment de la population qui ne se rend pas, qui n'obtient pas son diplôme, ça devrait nous briser le cœur, parce qu'on n'arrête pas de dire l'importance de l'éducation, on n'arrête pas de souligner à quel point en démocratie c'est important d'avoir des citoyens éduqués, d'avoir des citoyens qui sont capables de bien gagner leur vie, qui sont capables justement d'être des bons citoyens. Donc on devrait, peu importe qui est la portion, le segment de la population qui a pas de diplôme, on devrait s'en inquiéter. Ben non, on se fait dire, oh, c'est les garçons, c'est pas grave. Moi, ça me met hors de moi, Gide.
Non, et moi aussi. Et dans ce cadre-là, regardez, je vais vous donner un exemple. C'est parce que quand on parle que l'école devrait être plus proche des centres d'intérêt des garçons, là, entre autres. Parce que, regardez bien, là, si vous me demandez de parler de dépression, d'anxiété, là, on va parler des filles, puis beaucoup des filles, entre autres au secondaire. Mais si on parle de retard d'apprentissage et de décrochage, là, on doit parler des garçons. Prenez l'exemple, la bande dessinée, le deuxième choix de lecture des gars, c'est le neuvième choix de lecture des filles. Ça, c'est une différence. On va dire, bon, on peut crier au sexisme et aux stéréotypes, etc. Mais moi, écoute, j'en suis pas là, là. Je constate que si je suis devant un groupe d'élèves de deuxième année, gars et filles, mes gars ont un faible pour les livres des records, puis ils ont un faible pour, entre autres, là, la bande dessinée. Et on a des exemples patents. Un exemple au Nouveau-Brunswick, qui ont mis une équipe secondaire, une équipe de hockey junior majeur, qui s'appelle le Blizzard d'Edmundston.
Ouais,
et le
ouais.
Blizzard d'Edmundston a pairé ses joueurs avec des garçons de 3e, 4e, 5e année. Ils ont un programme qui s'appelle Blizz Lecture. Et les joueurs junior majeurs envoient des courtes capsules vidéo sur des stratégies de lecture.
Ben c'est donc bien génial.
Les jeunes qui lisent une trentaine, une quarantaine de minutes, ils ont 30 minutes de lecture à faire par jour, les jeunes de 3e à 5e année, reçoivent des cartes de hockey avec des stratégies.
Non!
Et ça a eu un effet bœuf. Mais ça bénéficiait.
Quelle bonne idée!
Allez,
ah, c'est génial!
Blizz, oui. B-L-I-Z-Z lecture, ça a été monté par au Nouveau-Brunswick, qui eux autres ont reconnu comme en Ontario, qui avait des particularités
dont
il fallait tenir compte pour les garçons.
Ben voilà. Ben écoutez, on a commencé en parlant du palmarès, puis on en finit en parlant de hockey. Qui l'aurait cru? mais c'est vraiment passionnant. Puis je reviens juste rapidement quand vous dites que en effet, il y en a plein de programmes pour donner aux filles le goût des sciences, par exemple, pour donner aux jeunes femmes le goût de se lancer en affaires, de se lancer en politique. Ben pourquoi ne peut-on pas appliquer ce modèle-là? Moi, je verrais très bien des gens qui sont des amoureux des livres, tu sais, un Mathieu Bocco. Aller dans les écoles pour motiver les jeunes, pour leur dire ben ça se peut aimer les livres puis bien parler puis que ce soit un modèle dans la société, mais semble-t-il que c'est pas dans les priorités. Écoutez, on va en savoir beaucoup plus donc sur ce palmarès, parce que le palmarès complet va être dans le Journal de Montréal, Journal de Québec demain, mais de façon générale quand même, monsieur Royer, vous diriez que ce sont des bonnes nouvelles quand même, le portrait général qui s'en dégage?
Oui, le portrait général, c'est une bonne nouvelle. Et sachant qu'au fur et à mesure que les années vont passer, on va devoir préciser ce modèle-là, va tenir compte de ceux qui ne sont pas là. Ils sont pas assis dans une classe de quatrième secondaire en train de faire l'évaluation du ministère. Donc, eux autres, là, sont sous le radar et ils sont nombreux.
Ils sont nombreux. Et avec la pandémie, donc les chiffres qui vont être analysés dans le palmarès de l'année prochaine, parce que là, ce sont les chiffres de 2019 qui sortent, ben là, il va y avoir en effet tout un autre portrait. Ça va être drôlement intéressant à analyser. Et Gide, merci beaucoup. Ça faisait longtemps, je m'ennuyais de vous. Alors, ben je vous vois à la télé, là, ou dans vos publicités avec le gouvernement. Je me dis, bon, ben il est encore en vie, puis il va bien.
Portez-vous bien.
Merci beaucoup, Gide Royer, qui est donc psychologue et également qui enseigne à l'Université Laval. Ben, c'est comme ça que se termine l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer vraiment une super, de belle fin de semaine. Je vous dis merci. Je dis merci aussi à Sébastien Laperrière, à la mise en onde, à la réalisation. Merci à... Aujourd'hui, c'était Maude Boutet à la recherche. Puis on se retrouve lundi. À très, très bientôt.